Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le cinquième volet de la saga Jurassic Park sort demain au cinéma. Est-ce que ce nouveau voyage au royaume des dinosaures vaut le coup ? Réponse de Stéphane Boutsock dans un instant. L'actrice américaine Scarlett Johansson délaisse quelque temps le cinéma et retrouve la musique pour un nouveau disque enregistré en duo avec son compositeur Peter Yorn. Philippe Corbet les a rencontrés en exclusivité à New York, à la télévision ce soir sur France 2 à 21h. 12 juillet 1998, le jour parfait. Un documentaire qui retrace cette journée historique pour le football français et pour notre pays. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis les meubles et les objets de l'entre-deux-guerres, symbole d'un nouvel art de vivre à l'époque, apparaissent étonnamment contemporains. C'est le thème de la nouvelle exposition du Centre Pompidou à Paris. Nous la découvrirons en compagnie de Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Encore un thème musical qui nous accompagne depuis maintenant 25 ans, composé par John Williams, celui de Jurassic Park. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Le cinquième volet de la saga Jurassic World, Fallen Kingdom, sort demain au cinéma. Qu'y avait-il donc encore à montrer au royaume des dinosaures ?
C'est vrai qu'on pensait avoir un peu fait le tour, mais le triomphe planétaire inattendu de Jurassic World, il y a deux ans, 1,6 milliard de dollars de recettes, a forcément relancé la machine. On y suivait les déboires d'un nouveau parc d'attractions censé offrir aux visiteurs un voyage dans le temps auprès de ces gigantesques créatures qui peuplaient notre Terre avant nous. Les choses avaient évidemment dégénéré, les héros du film s'étaient retrouvés face à un très gros nion T-Rex hybride. Eh bien, dans Jurassic World Fallen Kingdom, c'est un peu stupide, pourquoi pas avoir dit Royaume perdu d'ailleurs, l'île désormais déserte qui abrite nos dinos est menacée par une éruption volcanique et les créateurs du parc décident d'exfiltrer les bestioles, sauf qu'en sous-main, l'idée est de les récupérer pour les vendre aux plus offrants et même de les modifier génétiquement pour en faire des armes de guerre. Owen, gentil dresseur paléontologue, et Claire, sa gentille coéquipière, vont s'y opposer au péril de leur vie.
Alors, a priori Stéphane, je vous dirais, bon, y a rien de vraiment très neuf dans tout ça.
Vous n'aurez pas tort, le film explore les habituelles séquences d'action aux effets spéciaux bluffants, notamment la destruction de l'île qui est assez incroyable. On y croise des centaines de dinosaures, mais assez rapidement, et c'est là où c'est pas mal, c'est qu'on explore une voie plus qu'intéressante, celle de notre responsabilité face au dérèglement de la nature et notre fascination à absolument vouloir la contrôler. Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, retrouve son personnage de Claire.
Au début, on vous dit tout simplement, ok, ça fait 20 ans que les dinosaures cohabitent avec les humains. Est-ce que nous avons fait une erreur ? Est-ce que la nature doit elle-même la corriger ? Devons-nous laisser cette nature reprendre le contrôle de son destin ? Ou faut-il nous interposer et protéger ces animaux que nous avons créés ? C'est donc un nouveau monde dans lequel les dinosaures et les humains doivent coexister. On est loin de l'intrigue de Jurassic Park ou du premier Jurassic World où les dinosaures étaient en cage, enfermés. Là, c'est nous qui décidons de leur sort. Mais en fait, vous verrez que l'on ne contrôle rien du tout. Et ils deviennent bien plus dangereux que vous pouvez l'imaginer.
Chris Pratt, lui, incarne de nouveau Owen, intrépide aventurier, grand connaisseur des dinosaures. Il explique l'alliage marrant et intéressant sur lequel est construit le scénario du film.
Vas-y, Chris.
Les films de la saga Jurassic ont toujours parlé de la science, de notre capacité à imaginer le tout au milieu de dinosaures poursuivant les gens. Mais au cœur de tout cela, ce sont des histoires sur les relations entre les humains et entre les humains et la nature. Là, nous allons encore plus loin. C'est plus dense, meilleur, je pense, et bien plus excitant encore. Et oui, mec, c'est Jurassic, quoi. La musique, les temps morts, le suspense qui s'attache non pas à ce qu'on voit, mais à ce qu'on devine là-bas dans le coin. Ces films ont toujours été faits de cela, science, imagination, mais aussi thriller. C'est ce qu'on fait avec celui-ci.
Steven Bellery, il est bon pour partir au studio, là. Alors, le grand intérêt des films Jurassic Park, écoutez, c'est la qualité des effets spéciaux, le fait qu'on a vraiment l'impression de croiser les T-Rex et les Diplodocus. Ça marche toujours ?
Ah ouais, plus que jamais. J'ai jamais vu autant de dinosaures de ce genre, de bestioles comme ça dans un film. Coup de chapeau aux effets spéciaux, mais aussi, alors, à ce qu'on appelle les animatroniques, autrement dit, des répliques grandeur nature, plus vraies que nature, animées de manière ultra réaliste. C'est le cas de Blue, un vélociraptor dont Owen, le personnage de Chris Pratt, a pris la charge.
Elle semble tellement vivante. Il y avait quelqu'un pour contrôler le dilatement de ses pupilles, d'autres pour s'occuper de ses paupières, de ses narines, de sa joue quand elle respire, de la pompe qui gonfle sa jugulaire, de chacune de ses mains, de son cou. En tout, je pense qu'il y avait 12 types de mobilisés dans une sorte de chorégraphie pour qu'elle paraisse réelle.
Et puis il y a un vrai plus dans ce Jurassic World, c'est la deuxième partie du film qui renouvelle complètement le genre, nous plonge en fait dans l'ambiance des films d'horreur des années 50 ou 60. Tout se passe de nuit, dans un immense manoir perdu en forêt, où les dinosaures échappés traquent les humains. Chine, d'ailleurs, n'emmenez pas les petits. Jérôme Florent me demandait s'il pouvait emmener son petit garçon de 5 ans. Non, hein, les scènes sont assez rudes quand même. Frisson garanti, écoutez Bryce Dallas Howard.
Vous pensiez que la chose la plus terrifiante et dangereuse qui puisse arriver est de se retrouver face à un dinosaure ? Ce n'est pas le cas dans ce film. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus menaçant, de plus maléfique, de plus sanguinaire. Il s'agit de l'espèce humaine.
Jurassic World Fallen Kingdom, donc à découvrir dès demain au cinéma, avant sans doute, je vous l'annonce déjà, un sixième volet d'ici 2 ou 3 ans. Je ne suis pas très très inquiet sur cette suite.
Vous me l'avez bien vendu, j'ai envie d'y aller.
Très bien, d'aller vous régaler.
J'aurais peur moi.
On va parler télévision avec Médiamétrie et nos audiences de la veille, Isabelle Morini-Bosque.
Eh oh, je viens juste de les avoir. Alors, Esprit criminel, 4 200 000 téléspectateurs sur TF1. C'est vraiment une bonne série, effrayante mais excellente. En deuxième position, L'Armée des Ombres. Ah, avec Lino Ventura sur France 3, c'est formidable. Ah, oui. Quasiment 2 600 000 téléspectateurs et 13% du public. Ça a suffi pour la placer en deuxième position. De très peu, devant Major Crime sur la 2, 2 500 000. Et ensuite vient Le Meilleur Pâtissier sur M6, 2 400 000 qui est dans sa moitié. Ah non, qui progresse. Et alors, côté TNT, c'est W9, 1 400 000 téléspectateurs pour Une journée en enfer, inoxydable.
Dans un instant, Philippe Corbet et Scarlett Johansson. Un joli couple.
Oui. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et nous retrouvons à New York le correspondant d'RTL. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Philippe.
Bonjour
Philippe.
Bonjour.
Vous avez rencontré l'actrice Scarlett Johansson. Ce n'est pas de cinéma dont vous avez parlé avec Scarlett,
non,
mais de musique, puisqu'elle sort 5 nouveaux titres avec le chanteur américain Pete Yorn.
Et dont cette chanson Bad Dreams. Ce nouveau projet en commun s'appelle Apart, ça veut dire séparément, presque une décennie après Break Up, Rupture, leur album folk qui avait été disque de platine en France.
Pourquoi on voulait travailler ensemble ? Ah, ça fait des années que j'essaye de convaincre Pete qu'on se remette ensemble.
Et
j'ai dû jouer sur le long terme avec lui et il a finalement changé d'avis.
Ah, Scarlett me manquait.
De temps en temps, je lui disais « Hey, on se remet ensemble ?»
Non, on ne s'est pas encore remis ensemble.
Non, on est en phase de transition. C'est comme un deuxième chapitre. J'aime bien cette idée qu'il s'est passé une décennie, un bon bout de temps.
On apporte pas mal de bagages au studio d'enregistrement qu'on n'avait pas il y a 10 ans.
Quel genre de bagages ?
Des bagages de vie.
Ouais, des bagages de vie. Vivre sa vie et tous ces trucs dingues qui viennent avec.
Et puis les amours qui se défont, les ruptures ont donné évidemment dans l'histoire de la musique de très belles chansons.
Oui, se séparer ou se remettre ensemble, je pense. Tout ce qui se passe entre les deux est trop banal pour qu'on écrive dessus. Quand on regarde en arrière, quand vous êtes au milieu d'une relation qui fonctionne, la banalité c'est assez beau, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant à entendre. La vie quotidienne de quelqu'un d'autre quand ça marche.
Et d'ailleurs, le premier album de Scarlett Johansson et de Peter Yorn était inspiré par Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
Oui, avec notamment ce duo. Scarlett Johansson n'a pas attendu d'épouser un Français avec lequel elle a depuis divorcé pour admirer Serge Gainsbourg.
J'aime beaucoup Serge Gainsbourg. Évidemment, je n'ai pas la même relation avec sa musique que vous avez en France. Je n'ai pas grandi avec Serge Gainsbourg. J'aime Gainsbourg et plus encore ce qu'il représente dans la culture française.
Autre nouveau titre, Tomorrow. Malheureusement, malheureusement, on n'est pas prêt de voir Scarlett Johansson sur scène avec Pete Bjorn.
L'idée d'un festival de musique, pour moi, c'est un cauchemar.
Ouais, pourquoi ?
Simplement, je n'aime pas ça. Mais je pourrais imaginer qu'avec Pete, on puisse faire quelque chose dans un cadre plus intime qu'un festival.
Oui, un lieu plus intime.
Une tournée des maisons de retraite.
Yes. En plus de la chanson et du cinéma, Scarlett Johansson joue régulièrement un rôle assez particulier dans l'émission comique de NBC Saturday Night Live, dont son nouveau compagnon est l'une des figures. Elle interprète le rôle d'Ivanka Trump, la fille du président.
There's a special place in hell and we're all there.
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis pas facile à joindre, mais elle peut essayer de me contacter.
Merry Christmas, Dad.
Merry Christmas, Ivanka.
Est-ce que je vais lui envoyer l'album ? Elle peut le trouver sur iTunes.
Et vous aussi d'ailleurs, sur iTunes ou ailleurs, vous pourrez trouver Apart, le nouveau disque de Scarlett Johansson et Pete Bjorn.
Merci beaucoup cher Philippe, en direct de New York.
Absolument.
On va parler On aime bien quand vous ponctuez les choses. On va parler télévision maintenant Philippe, avec Isabelle Morini-Bosque. Alors d'abord quelques mots sur TV Note 2018.
Oui, rendez-vous désormais incontournable avec un nombre croissant de votants année après année, plus de 720 000 votes enregistrés en 2017. Oui. Vous avez une chaîne historique préférée ? Vous raffolez d'une autre de la TNT ? Vous adorez Yves Calvi ? Ah eh bien, oui. Mais dites-le, en participant à la grande enquête annuelle sur la télévision de puremedia.com en partenariat avec le quotidien gratuit 20 minutes et bien sûr RTL. Il y avait jusque-là 17 catégories, meilleur jeu télé, talk show préféré, magazine ou divertissement le plus réussi, etc. etc. Une dixième catégorie rajoutée cette année, celle du téléfilm ou de la mini-série de saison. Ça s'impose. Vous avez deux semaines pour voter via un formulaire sur les sites de puremedia.com 20 minutes et bien sûr RTL, ainsi que sur l'application mobile Pure Média disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Résultat le mercredi 20 juin, mais d'ici là, à vos marques, prêts, votez.
Nous signalons maintenant la fin de L'Arme fatale sur TF1.
Excellent final d'une excellente adaptation dont on verra la suite sans l'acteur principal Clayne Crawford viré pour mauvais comportement. Cela dit, la véritable arme fatale de la soirée, c'est la fiction française sans prétention de la 3 Tandem qui fait quasiment la même audience que sa rivale américaine sur TF1. C'est avec Astrid Veillon qui effectivement veille, notamment au grain.
On va parler maintenant du documentaire consacré au 12 juillet 1998, ce jour qualifié de parfait.
C'est d'ailleurs le titre, 12 juillet 98, le jour parfait sur France 2. C'est bien sûr celui qui s'est terminé par la victoire des Bleus en 98. Une journée considérée comme le dernier grand moment de bonheur collectif spontanément partagé. C'est ce que disent les sociologues par les Français dès le matin. Cela dit, cette journée ne se déroule pas comme prévu pour certains.
Le 12 juillet 98 commence à 2h du matin avec les premières contractions qui annonce l'arrivée de cette petite qui n'était pas prévue vraiment aussitôt. Je suis restée comme ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Ah bon, et pourquoi ? J'ai dit non, ce soir, il y a le match, il faut que j'ai accouché avant. Ou alors, si vraiment c'est pas possible, vous mettez une télévision en salle de travail. Elle est arrivée le matin vers 10h20-25, c'était parfait. C'était la journée parfaite. J'avais eu le temps de me reposer pour regarder le match tranquille. Pour l'anecdote, elle devait s'appeler Victoire. Mon mari me dit, tu sais, c'est peut-être un peu bête de l'appeler Victoire. Si la France gagne, tout le monde va penser que ça a été fait exprès. Bon, bah d'accord, comment on peut l'appeler ? Et dans le choix de nos prénoms, il y avait Lisa. Donc le foot n'était jamais bien loin. Ça faisait un petit rappel pour Lisa Razou.
Et il y a, si j'ose dire, le pendant masculin.
Carla, c'est la petite dernière. Donc elle est née le 12 juillet 98. Le 12 juillet au matin, la seule chose qui m'intéresse, c'est le match du soir. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je suis à 100 lieues, mais alors à 100 lieues de penser que ça va arriver aujourd'hui. Arrivé à la maternité, ça devait être vers les 10 heures. Le travail a commencé, donc bon, je me suis dit 10 heures, le match est à 20 heures, ah quoi, tranquille. Bah, elle a décidé autrement, la demoiselle. Elle a décidé voilà.
Le match lui-même, suivi par près de 24 millions de Français et 1 milliard 300 millions de téléspectateurs dans le monde, ne représente que 5 minutes d'image du film au total. Ce qui compte, ce sont les émotions et les témoignages, parfois contrariés, la preuve avec Jamel Debbouze.
J'avais mon ticket pour la finale, très bien placé, avec mon maillot de l'équipe de France sur le dos.
Mon père, il me dit, ta grand-mère est malade, on va au bled. Et je lui dis, mais c'est pas si... Est-ce qu'elle va être malade longtemps ?
J'essaie de négocier.
Je me suis pris une volée, et donc j'étais au bled.
Voilà. Ce film n'oublie personne. Et quels édifices ont fait recette ce jour-là, je vous le demande ? Les églises.
La messe, dans la basilique de Saint-Denis, a été célébrée ce matin à guichet fermé. Les fidèles s'y sont pressés avec, pour certains, une ferveur un peu particulière.
Là, je vais prier, puis je vais mettre une bouchée. Hein. Ah oui, là, je vais mettre une bouchée, là. Il faut que ça gagne. Hein. Ça gagne au moins par deux buts d'écart.
Et si on parlait un peu des places avec, par exemple, au départ, Patrick Bosso?
Oui. Je partage l'amitié de Laurent Blanc, donc depuis très très longtemps. Et donc, Laurent, avant la Coupe du Monde, peut-être un mois, il me dit, écoute, Patrick, nous, on a des places à prix coûtant, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, ben, la finale, peut-être, quoi. Et il me dit, oui, mais je peux t'avoir qu'une place.
C'est toujours sur les Champs-Élysées que l'on demande le plus de billets pour la finale. C'est aussi ici que l'on en voit beaucoup circuler au marché noir. Les prix varient entre 16 000 francs et 50 000 francs pour ce billet appelé Prestige, qui offre en loge le champagne et un repas pendant le match.
Et c'est un peu la même sensation, je présume, que les gens qui ont gagné au loto, vous savez, quand ils ont le billet avant d'encaisser, ils se disent où je le mets, qu'est-ce que j'en fais, quoi.
Vous entendrez aussi, entre autres, une Française infiltrée, si j'ose dire, au Brésil. On verra également un militaire ayant suivi le match en zone de conflit en ex-Yougoslavie, oui, où ce calendrier qui s'était fabriqué une antenne de fortune avec de l'aluminium en mer de Chine pour ne rien rater. Seul bémol, c'est un vrai bémol pour le coup, la musique omniprésente.
Ah bah
on le
entendu,
redit,
c'est
quand la musique ponctue, c'est bien, quand elle pollue, c'est rien.
Et, ben voilà.
Et à part ça, c'est un excellent documentaire.
Et c'est ce soir donc sur France 2. Dans un instant, on sort avec Sophie Orange et nous emmène au Centre Pompidou.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Nous allons découvrir ce matin la nouvelle exposition du Centre Pompidou à Paris. UAM, je prononce correctement.
Oui, c'est comme ça.
Ben voilà. Une aventure moderne, un titre un peu énigmatique.
Vous
allez nous aider, ben voilà, à comprendre Céan.
On va parler ce matin en fait de meubles, d'architecture, de décoration intérieure, de pièces absolument superbes nées il y a presque 80-90 ans et qui nous semblent tout à fait contemporaines. Des œuvres signées d'artistes modernes. Regardez ce tabouret haut, une assise ronde avec un coussin moelleux et des pieds en métal. On le trouve partout aujourd'hui, il date de 1929. Regardez cette lampe articulée de bureau, elle vous dit quelque chose?
Ah oui,
on a les mêmes à RTL, elle date de 1930, quasiment les mêmes. Regardez ce tapis aux formes géométriques, lui aussi très moderne. Et pourtant, à l'époque, nous sommes à l'aube d'un nouveau mouvement artistique, l'Union des artistes modernes, UAM, d'où le titre de l'exposition, qui tourne le dos au passé et qui pose les bases de nos intérieurs, de nos plans de maisons et d'immeubles d'aujourd'hui. Plusieurs noms sont restés célèbres, si je vous dis Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens, Fernand Léger, Sonia et Robert Delaunay, Jean Prouvé. Mais à l'époque, leur nouvelle façon de voir les choses a eu du mal à s'imposer, explique l'un des commissaires de cette exposition, Olivier Saint-Clabre.
Au départ, c'est un regroupement de créateurs, architectes, peintres, sculpteurs, créateurs de mobilier, qui mènent le combat pour la modernité. Un regroupement offensif. C'est les modernes contre la tradition, contre le classicisme, contre le retour à l'ordre. C'était un combat de tous les jours. Épurer les formes, rendre les objets comme les intérieurs fonctionnels. Il y a l'usage de matériaux nouveaux, l'usage du verre, le tube métallique, dans l'architecture comme dans les meubles.
Alors, comment se forme ce mouvement, Sophie?
Alors, la naissance officielle date du 15 mai 1929, mais tous travaillent déjà ensemble et se connaissent depuis les années 10, 20, femmes, hommes, souvent complices, parfois fâchés. Au total, 250 artistes ont signé ce manifeste. L'apogée du mouvement, c'est vraiment les années 30. Quatre salons d'exposition de l'UAM organisés à Paris, puis l'exposition internationale de 1937, avec les plus belles réalisations qui sont présentées dans tous les domaines. C'est ça qui est intéressant, mobilier, vitrail, sculpture, peinture, graphisme, photographie, art du textile, reliure, joaillerie, ferronnerie, on voit tout ça lors de cette exposition. Les projets sont collectifs. Un exemple, ce film L'Inhumaine de Martial Lherbier, il n'est pas resté dans la postérité.
Non.
Je vous confirme, vous confirmez Stéphane. Les décors extérieurs sont signés pourtant Robert Mallet-Stevens. Il a travaillé pour 20 autres films. L'intérieur, Fernand Léger. Les meubles sont signés Jean Lursa et Pierre Charot. Film en noir et blanc, comme toutes les photos des meubles et des objets de cette époque. Et pourtant, la couleur pète. Regardez ces photos que je vous ai apportées, jaune, bleu, rose. Vraiment, on est au cœur de la couleur. Le mot d'ordre de l'Union des artistes moderne, leur idéal, s'entêter à créer sans regarder en arrière. Ils deviennent même avant-gardistes. Ils inventent un nouvel art de vivre accessible à tous. Écoutez bien Olivier Saint-Clabre, vous me direz à quoi ça vous fait penser.
Des meubles assemblés par les personnes qui les achètent, les concentrer dans un volume réduit pour obtenir une économie dans le transport. Les meubles interchangeables, la recherche d'économie de matière, c'est déjà présent dans les meubles de ses créateurs.
Alors ça vous dit quelque chose?
Bah oui.
On n'ose pas le dire.
Suédois, une marque suédoise.
Voilà, exactement. Je monte mes meubles, je compose mes intérieurs. Voilà. Et là, on est en 1915-20. Vous voyez quand même l'avant-gardisme de cette époque. À l'époque, c'est vrai que ces artistes ont pourtant essuyé de très nombreuses critiques. Les créateurs qui ont utilisé du métal, par exemple, étaient accusés de machinisme. Il n'y avait plus de décor sur les meubles qu'on voulait épurer sur les façades des immeubles. On les traitait de nudistes. Oui. L'UAM a connu une nouvelle jeunesse après la guerre, mais le mouvement s'éteindra de lui-même le 18 décembre 1958, mais vous voyez qu'il en reste beaucoup aujourd'hui. Plus de 800 meubles et objets à découvrir au Centre Pompidou à Paris jusqu'à la fin de l'été.
Merci beaucoup Sophie Orange. Dans un instant, on se dit au revoir avec toute l'équipe et on accueille Julien Courbet. Je crois que nous avons œuvré pour l'avenir du pays.
Il me semble que nous l'essentiel est fait.
Ça, c'est merveilleux. Merci à toute l'équipe et bonjour à Julien Courbet.
Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé puisque j'avais quelques affaires à régler pour l'émission, mais oui. J'ai l'impression que vous avez fait des bêtises. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Non, pas du tout.
De quoi étiez-vous en train de parler ?
Non,
pas
sérieux.
Du tout.
Ah bon, il n'y avait rien de...
Sérieux, concentré si sur notre axe. Et vous savez quoi ? En fait, Isabelle m'a soufflé que vous aviez produit une enquête sur Nordal Lelandais qui passe ce soir sur C8.
Tout à fait. À 21h. Dans la peau de Nordal Lelandais, où l'on va essayer de comprendre la psychologie très complexe de cet homme, et ça sera suivi d'un débat en direct. C'est une soirée exceptionnelle. Je vous remercie de le préciser.
C'est un excellent doc.
Yves Calvi. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosse.
C'est Madame Morini-Bosse qui m'a tenu informée.
Elle le regarde tout. Je ne sais pas comment elle fait dans son bain, dans sa douche, en faisant manger. N'importe où, elle doit avoir des téléviseurs partout, cette femme.
Elle voit tout.
Elle aurait été dame pipi dans sa jeunesse, que ça ne m'étonnerait pas. Elle est au courant d'absolument tout.
J'y réfléchis.
Je vous souhaite une belle journée, mon Yves.
Bonne émission.